Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mais voici d'abord les titres de ce journal. En Ituri, près de 100 000 personnes seraient bloquées à bout les centres, sans accès aux services socio-économiques de base. Et pour cause, la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à Boulé et dans ses environs. Selon la société civile locale, des tirs sporadiques et des affrontements impliquant la milice de la CRP sont devenus quasi quotidiens. Concernant le retard sur la paie des enseignants dans la Tchopo, la Caritas diocésaine vient de donner sa version des faits. Selon l'abbé Célestin Osandou, membre du conseil d'administration de cette structure religieuse, la Caritas ne paye qu'après la libération des salaires par le gouvernement. L'invité de ce journal s'appelle Vigoureux Aloumouene Moulaké, sous-préfet d'intérimaire à la sous-division de l'éducation nationale des Fizi 2, basée à Baraka dans la province du Sud Kivu. Il revient sur les raisons qui entravent le déroulement normal des activités scolaires dans les écoles de Baraka et ses périphéries dans le territoire de Fizi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parlé de la mi-journée. Ce journal part de l'Ituri où la situation sécuritaire et humanitaire demeure très préoccupante à Boulé et dans ses environs en territoire de Djougou. Selon la société civile locale, des tirs sporadiques et des affrontements impliquant la milice Convention pour la révolution populaire CRP sont devenus quasi quotidiens. Conséquence, près de 100 000 personnes seraient bloquées à bout les centres sans accès aux services sociaux économiques de base, notamment les champs et les marchés. Cette structure citoyenne appelle le gouvernement à des solutions urgentes afin de sauver des milliers de vies en détresse dans cette entité. Le reportage d'Isaac Remoyope rendu par Jude Mister Bilanda.
Depuis près d'un mois, la situation sécuritaire reste volatile à Boulé, à environ 100 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, une zone sous influence de la milice CRP. Des coups de feu y sont entendus quotidiennement, affirme la société civile locale. Des échanges de tirs ont notamment été signalés ce samedi entre les militaires ougandais déployés dans la zone et les éléments de la CRP et qui menacent la quiétude de la population actuellement regroupée autour de la base militaire de UPDF à Boulé. Ce même samedi, des éléments des FRDC ont également tiré plusieurs coups de feu pour disperser des miliciens dont le mouvement était observé en direction des Sandoukou. Selon des sources locales, malgré les interventions militaires menées depuis au moins 2 semaines, le groupe armé CRP n'a pas encore été démantelé dans les environs de Boulé, ce qui aggrave la situation humanitaire de la région. Plus de 100 000 habitants de ces centres commerciaux se retrouvent pris en étau entre les parties au conflit. Les activités agricoles et économiques, notamment les boutiques et les marchés, sont totalement paralysées. Les structures sanitaires sont également fermées, mettant en difficulté des centaines de blessés qui n'ont pas accès aux soins de santé. Selon la société civile, la situation continue de se détériorer et nécessite une intervention urgente du gouvernement.
Restons dans la province. Les détenus de la prison centrale de Bounia sont appelés à mettre à profit leur temps de détention en apprenant des métiers professionnels en vue de leur réinsertion socio-économique. Cet appel est lancé par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO qui a organisé samedi dernier une formation à l'entrepreneuriat au sein de cette maison carcérale qui compte plus de 2000 détenus. Les directeurs de la prison saluent cette initiative qu'ils estiment utile pour réduire les cas de récidive après la libération. Isaac Remoyope pour les détails.
Sous le thème « Comment transformer le temps de détention en opportunité économique en milieu carcéral », cette formation a réuni une cinquantaine de détenus, dont 11 femmes. Les participants ont été initiés aux notions des bases de l'entrepreneuriat, de la gestion financière et du développement personnel. L'objectif de cette démarche est de provoquer un changement de mentalité en amenant les détenus à considérer le temps passé en prison, non comme une perte, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage des métiers professionnels. Selon les directeurs de la prison centrale de Bounia, l'acquisition des compétences professionnelles contribue à réduire les violences en milieu carcéral et à limiter les cas de récidive après la libération. Le colonel Camille Nzonzi salue cette initiative de la MONUSCO qu'il estime en appui aux efforts du gouvernement pour une réinsertion socio-économique durable des personnes en conflit avec la loi. Il ajoute que certains détenus formés en maçonnerie ont été mis en contribution dans la construction de plusieurs infrastructures au sein de la prison, notamment les bâtiments servant de cellules pour les femmes et les enfants. À noter que la MONUSCO a déjà doté la prison de machines à coudre et d'ordinateurs destinés à la formation des détenus, entre autres appuis. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province du Haut-Katanga, 20 jeunes présumés délinquants, dont certains sont des militants des partis politiques, ont été arrêtés par les services de sécurité à Lubumbashi. Ils ont été présentés ce vendredi à la maire intérimaire de Lubumbashi dans le cadre de l'opération Zéro délinquant au centre-ville. Objectif, assainir la ville de Lubumbashi de toute menace qui trouble la quiétude de la population. Le point avec Paulin Monanga.
Parmi ces 20 personnes, il y a deux femmes. Ces jeunes sont accusés d'harceler et de tracasser la population au centre-ville de Lubumbashi. La maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, demande aux partis politiques de retirer certains de leurs militants du centre-ville de Lubumbashi qui s'adonnent à la délinquance pour préserver l'ordre public. Et l'autorité urbaine rassure que la traque des jeunes inciviques au centre-ville de Lubumbashi va se poursuivre. Joyce Tunda Chansa. Des femmes craignent pour se rendre au centre-ville de Lubumbashi parce que vous, les inciviques, vous tracassez les mamans, vous volez l'argent des paisibles citoyens, vous tabassez les gens et vous tuez les gens dans la ville de Lubumbashi. Je continue de lancer un message aux partis politiques de retirer leurs militants au centre-ville de Lubumbashi tant qu'ils continuent de semer les désordres et nous qui représentons l'État congolais, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer de les arrêter et leur place, c'est la prison. Et nous allons vous transférer aujourd'hui au parquet. Signalons que c'est la deuxième vague des arrestations des jeunes en l'espace d'une semaine. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Dans la province de la Chopo pendant ces temps, l'ONG Congo Op Initiative, CHI, plaide pour une meilleure protection des droits de l'enfant, en particulier ceux en conflit avec la loi. En partenariat avec la fondation Doudou Fouamba, elle a mobilisé hier les 10 enfants, les autorités ainsi que des ONG de la société civile pour réfléchir autour du thème de la 17e année de la promulgation de la loi portant protection des enfants, enjeux, défis et perspectives. C'était à l'esplanade de la mairie de Kisangani. Un reportage de Jacques Moukonkole, rendu par Jean Gandou Kabongo.
Pour Congo Op Initiative, cette commémoration est une occasion de rappeler que la RDC dispose d'un cadre juridique important en matière de protection de l'enfant. Cependant, le défi reste son application concrète, souligne Trésor Grison Kakumbi, son coordonnateur.
On doit protéger l'enfant, garantir la santé, l'éducation, la sécurité sociale, l'alimentation, pour qu'on ait les citoyens qu'il faut. Aux autorités, que chaque acteur politique de ce pays, que chaque citoyen agisse pour que les enfants grandissent comme ils se devaient.
Partenaire de Congo Op Initiative, la fondation de Doudou Fouamba a indiqué que son engagement est d'accompagner les enfants en conflit avec la loi à travers des actions sociales concrètes, comme le déclare son coordonnateur Trésor Batamba Aouka.
Pensons organiser avec l'ONG que nous avions appuyé un programme d'accompagnement pour ceux qui peuvent encore rentrer à l'école. Nous verrons ce que nous pouvons faire avec eux. Et mais pour les autres, nous allons aussi créer un programme d'accompagnement et de formation des métiers afin que ces enfants-là puissent se prendre en charge et diminuer cet engouement des enfants dans la rue.
Pour sa part, le député national Fontaine Mangala insiste sur la responsabilité collective dans la garantie des droits fondamentaux de l'enfant conformément aux lois en vigueur en RDC.
Restons dans la province de la Chopo. La Caritas diocésaine d'Isangi vient de donner sa version des faits sur le retard constaté dans les paiements des salaires des enseignants placés sous sa responsabilité. La Caritas ne paye qu'après la libération des salaires par le gouvernement, déclare l'abbé Célestin Osandou, membre du conseil d'administration de cette structure religieuse. Cet éclaircissement intervient 20 heures après la marche organisée vendredi dernier par les enseignants du territoire d'Opala, accusant la Caritas de détournement de leur salaire. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Sur les 3 mois de salaire du dernier trimestre de l'année dernière, la Caritas n'avait reçu l'ordre de paiement du gouvernement que d'un seul mois. Cependant, les enseignants avaient refusé de percevoir cet argent, menaçant même des morts. L'agent payeur de la Caritas explique l'abbé Célestin Osandu, membre du conseil d'administration de la Caritas Isangi.
La Caritas a mené le mois de novembre sans le mois d'octobre. Les enseignants ont fait des mémos et ils ont même prémédité que dès qu'ils verraient l'agent de la Caritas avec limite mois sur les doigts, ils allaient les tuer. Alors on ne pouvait pas exposer la vie des gens devant cette fureur.
Au terme d'une réunion institutionnelle de jeudi dernier à Kinshasa, le gouvernement, conscient du retard pris dans le paiement de tous les salaires, vient de débloquer le deuxième mois, déclare l'abbé Célestin Osandu.
Sur les 3 mois qui faisaient problème, il y a déjà 2 mois qui sont débloqués par le gouvernement. Donc nous n'attendons que les derniers mois de décembre qui doivent encore être honorés par le gouvernement.
La mission de la Caritas se limite à distribuer les fonds reçus de l'État. Une fois réceptionné, souligne l'abbé Célestin Osandu. Ce dernier appelle les enseignants au calme et au dialogue, affirmant la disponibilité de la Caritas pour une franche collaboration afin de régler définitivement cette affaire. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'acquisition des sacs poubelles, les renforcements du charroi automobile et de l'équipe de sensibilisation, ce sont là quelques-unes des mesures prises samedi par le bureau unique de la mairie de la ville de Beni pour lutter contre l'insalubrité dans les 2 marchés urbains de Kilokwa et Mayangos. Ces mesures font suite à la présence des tas d'immondices dans et autour de ces 2 marchés de la ville. Le chef de la division unique de la mairie de Beni, Claude Nzimoto, explique au micro de Marc Marofimbo.
Il a été dit que le véhicule transportant les légumes pourront effectuer des rotations la semaine et il y aura 2 véhicules par déchargement partout. Et c'est là, s'il y a par exemple 15 camions, s'ils font 2 partout, ils peuvent facilement décharger les 15 véhicules par jour. Et cela pourra éviter les immondices de traîner au niveau du petit marché Mayangos. Mais également, il a été dit qu'il faudrait veiller aussi au site de déchargement des immondices, car c'est là où ça produit beaucoup d'immondices, surtout le ménage, mais également au niveau du marché. Nous avons chargé l'entreprise Kamuzi, mais également Amako, de pouvoir sensibiliser leurs membres pour que chacun d'eux ait au moins un sac à côté de son étalage pour y déposer les immondices. Par la suite, comme il était dit, la société Forique pourra passer chaque mercredi et samedi pour les ramassages. L'assainissement, c'est un grand secteur qui demande également beaucoup de moyens. Chaque semaine, la mairie dispose de carburant pour assainir la ville.
Restons au Nord Kivu. Combien coûte un bidon d'eau de 20 litres dans la ville de Beni? Difficile de répondre à cette question, tant les prix varient selon les propriétaires des bornes fontaines et des sites de distribution d'eau par forage. Une situation qui pénalise les habitants de cette ville. Pour mettre fin à cette instabilité de prix, la mairie de Beni a réuni les responsables en charge de la gestion d'eau de la ville et fixé désormais à 100 francs congolais le prix du bidon d'eau de 20 litres. Elle a également décidé de la mise en place d'une commission d'enquête qui va se pencher sur les forages distributeurs d'eau dans la ville. Vincent Makambo, chef de bureau à la mairie de Beni, explique au micro de Marc Marofimbo.
Officiellement, le bidon d'eau en ville de Beni, c'est 100 francs. Donc, 20 litres, c'est 100 francs. La plupart des forages sont faits clandestinement, soit par les entreprises de forage qui font les forages, qui n'ont pas encore l'autorisation du maire de la ville. Il y a des mesures qui ont été prises. D'abord, les mesures d'identification. Nous sommes en train de travailler avec les opérateurs pour qu'ils donnent le nombre des forages qu'ils ont fait, pour que le bureau de l'eau puisse les cartographier d'abord, les connaître. Il y a un travail qui sera fait par le service de l'économie pour commencer à identifier ces gens-là. On va d'abord connaître les opérateurs qui se sont dit à fixer l'eau à 200 à 250 francs. Après avoir les identifiés, on va encore faire une autre assise avec eux. C'est à partir de là qu'on va essayer de fixer l'eau, donner un prix qui sera adopté à tout le monde. Le service de l'économie va entrer sur le terrain pour identifier les gens qui sont au-delà des 100 francs, parce que j'ai dit que l'eau c'est 100 francs.
À Goma, la littérature était à l'honneur ce samedi à la Maison des Jeunes. Le café littéraire organisé par le collectif des écrivains du Nord Kivu a mis en lumière l'ouvrage « Les marques de parcours » de Brian Kabuoro. Un an après sa publication aux éditions Nguet, ce livre sert aujourd'hui de modèle pour encourager la jeunesse et particulièrement les jeunes filles à prendre la plume. Entre passionnés des lectures et nouveaux auteurs, l'ambiance était au partage. Rosalie Zaodi y était pour nous. Voici son reportage.
Je chante pour que les flots des mémos fassent renaître la joie du vivre ensemble.
Cette rencontre de près de 3 heures a été marquée par des slams et des échanges autour de l'ouvrage « Les marques du parcours ». Brian Kabuoro, son auteur, apprécie de voir un début d'intérêt pour la lecture chez les jeunes.
Pour moi, c'est une grande fierté en fait, non pas parce que j'ai parlé de mon livre, mais parce que j'ai vu les gens qui ne s'intéressent pas à la lecture venir pour une activité qui tourne autour de la lecture. Et c'est une grande fierté parce qu'au travers de mon livre, je vois les gens qui avaient une certaine méfiance vis-à-vis des livres s'intéresser à la lecture parce qu'ils se disent « c'est Brianka, c'est quelqu'un que je connais, j'ai hâte de découvrir de quoi il a parlé ».
En invitant Madame Brianka à cette rencontre, le collectif des écrivains du Nord Kivu veut amener plus de filles à suivre son modèle. Une initiative qu'apprécie Landry Mouanouka, un passionné des lectures.
D'habitude, quand il y a ces gens d'assises, c'est plus des espaces où on retrouve beaucoup plus de garçons. Et pour moi, voir autant de filles être réunies autour de la littérature, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup parlé personnellement.
Pour affûter la plume de ses apprentis auteurs, le président du collectif a lancé les défis de lire un livre par semaine. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, avant d'aller plus loin, un plaidoyer a été mené vendredi dernier auprès du gouverneur des provinces pour la représentativité de la femme au sein du gouvernement provincial. Les femmes de l'association Chilid, que veut dire elle dirige, formée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, ont été en face du gouverneur des provinces pour mener les plaidoyers en vue d'obtenir une augmentation significative de la représentativité des femmes au sein du gouvernement provincial. Elles ont dressé un état des lieux sombres de la représentativité de la femme en s'appuyant sur des chiffres concrets. Régine Chama, porte-parole pour la circonstance, s'exprimait au micro d'Esther Ndalafina.
Nous sommes venus voir l'autorité provinciale. Nous avions un plaidoyer à faire auprès de lui sur la prise en compte du genre dans les postes de prise de décision et puis l'inclusion aussi. La fondation qui nous a formés a comme, entre autres, pour objectif la participation politique de la femme. Ainsi, nous, en tant que femmes chilites sélectionnées parmi les 20 de la province, nous sommes venus voir l'autorité pour qu'il fasse en sorte que beaucoup de femmes puissent aussi participer à cette gestion de la chose publique parce que c'est lui le numéro un de la province, celui qui a un mot à dire pour qu'une femme soit nommée à un poste quelconque de prise de décision, c'est sa signature qui compte. Voilà pourquoi nous sommes venus vers lui. En faisant cela, je crois que les femmes pourront être nombreuses s'il peut arriver à prendre en compte notre plaidoyer. Il nous a beaucoup encouragés dans ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Nous savons que c'est un père de famille, il nous a dit qu'il a des oreilles et il a bien suivi notre plaidoyer. Nous attendons à ce que sa réponse sera très bien positive.
Actualité internationale.
En amont de l'élection présidentielle fixée au 12 avril prochain, les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour un double scrutin législatif et communal ce dimanche 11 janvier. À la veille du vote, les organisations de la société civile ont, de leur côté, ouvert leur centre opérationnel destiné à superviser le bon déroulement des opérations comme elles le font désormais depuis une dizaine d'années. Quand Maroc 2025, la Côte d'Ivoire a souffert de son inexpérience samedi 10 janvier contre l'Égypte en quart de finale de la CAN. La défaite 2-3 a souligné la jeunesse d'un groupe qui s'est heurté à des pharaons capables de punir la moindre erreur, de quoi faire grandir des éléphants au groupe encore très jeune.
L'invité.
L'invité du journal s'appelle Vigoureux Aloumouéné Moulaké, sous-préfet d'intérimaire à la sous-division de l'éducation nationale de la nouvelle citoyenneté FISI 2, basée à Baraka dans la province du Sud-Kivu. Il revient sur les raisons qui entravent le déroulement normal des activités scolaires dans les écoles de Baraka et ses périphéries dans les territoires de FISI. Vigoureux Aloumouéné s'entretient avec Jean Kassami.
Messieurs les directeurs de la sous-division éducationnelle FISI 2, Vigoureux Aloumouéné Moulaké, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Kassami.
Depuis la fin des vacances du premier trimestre, il semble que les cours n'ont pas encore repris dans les écoles de votre ressort. Quelles en sont les raisons?
La situation de la reprise des activités scolaires ici à Baraka et ses environs est caractérisée par la lenteur, surtout observée au niveau des parents. Certains parents, oui, se réservent d'envoyer massivement les enfants à l'école pour raison de 1. Une fausse interprétation d'un communiqué de certaines structures de la société civile d'Ouvira, certains groupes Wazalendo qui ont interdit les parents ou la population d'Ouvira d'envoyer les enfants à l'école. Alors, la population de Baraka et ses environs a confondu ce message pendant que ces audios ou ces messages ne concernaient que la ville d'Ouvira et non pas ici à Baraka. Baraka se trouve à 90 km d'Ouvira. Le risque lié au combat ou au front est vraiment moindre qu'ici à Baraka. Bon, une autre situation qui contribue à la réticence des parents d'envoyer les enfants à l'école, ce sont les coups de balles qui étaient en train d'être tirés depuis il y a 2 semaines déjà. Donc les éléments FRDC présents ici sur place étaient en train de tirer partout là, d'une manière confuse. Chaque nuit, chaque soirée, la population était vraiment dans la psychose. Mais les autorités politico-administratives se sont impliquées dans la situation. Actuellement, il ne reste que des cas isolés des coups de feu qu'on enregistre en ville de Baraka et surtout pendant la nuit.
Au regard de toutes ces pesanteurs sécuritaires que vous venez d'évoquer dans la ville de Baraka et ses environs, quels conseils voulez-vous adresser aux parents, aux enseignants et aux autres acteurs de l'éducation du territoire de Fizi?
Donc actuellement, je peux dire aux parents qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école parce qu'à Baraka Centre et ses environs, il n'y a pas vraiment de sécurité comme à Ouvira.
Nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, les activités scolaires vont se dérouler normalement dans chaque école.
Et une fois les activités scolaires reprennent, quel sera le sort des enfants déplacés et ceux qui ont traversé jusqu'au Burundi avec leurs parents pour se mettre à l'abri de la progression de l'AFC-M23?
Certains élèves et certains enseignants sont vraiment en déplacement vers Burundi et les périphéries de Baraka et Baraka Centre, en train de fuir des atrocités entre les deux parties en guerre. Alors, cela est en train de ralentir certains élèves et certains enseignants, et voire même les parents, de douter sur l'effectivité de la reprise des activités scolaires. Nous appelons quand même toutes les parties, chacun, à vaquer à ses occupations. Donc, la sous-division de Fizi 2, que nous chapeautons actuellement, interpelle les parents, les élèves, les enseignants et les autres acteurs éducatifs de pouvoir emboîter les pas, les chemins de l'école.
Monsieur le directeur de la sous-division éducationnelle Fizi 2, Figuré Alumwene Moulaké, je vous dis merci.
Oui, c'est un peu ça, monsieur les journalistes.
C'était notre invité Figuré Alumwene qui s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parlé de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean Gando Kabongo et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est aussi disponible sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et bonne suite de programmes sur votre radio.